Nous ouvrirons maintenant notre Bible pour le texte qui nous est proposé pour cette méditation par Evelyn Nielsen. Et nous le trouvons dans l'Épître de Paul aux Philippiens. L'Épître de Paul aux Philippiens, le deuxième chapitre. Et nous lirons à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Eh bien, avant de céder la parole à notre sœur Evelyn Nielsen, nous voulons la connaître un peu mieux. Eh bien, je demanderai à Brina de venir maintenant nous présenter notre sœur.
Donc, je suis vraiment heureuse de vous présenter mon amie et ma collègue Evelyn Nielsen. Evelyn a commencé sa vie comme enseignante. Après son baptême, elle a fait des études en théologie à Collonges. C'est là qu'elle a rencontré son mari danois, Bent. Pour ça, elle a un nom danois, alors qu'elle est française. En 1975, ils sont partis tous les deux, donc en famille, avec leurs deux filles, en Côte d'Ivoire, où ils ont travaillé pour l'Église. Les expériences de son mari, Bent, dans le domaine du développement, ont intéressé Adra, qui commençait à se mettre sur pied dans les années 80. Et donc, ils ont demandé à Bent, son mari, d'être directeur d'Adra Burundi. Et donc, c'est là qu'il a travaillé jusqu'à son décès. Et après son décès, Evelyn a pris la relève. Et c'est à cette époque qu'elle a fait une maîtrise en développement international avec Andrews. Et après, le Burundi, elle a travaillé 10 ans en Tunisie comme directrice, et c'est à ce moment-là que j'ai eu la joie de la connaître, qu'elle a proposé de m'aider avec Adra France, et elle continue à m'aider régulièrement, et elle est vraiment d'une grande aide pour moi. Je suis vraiment heureuse de l'avoir avec nous aujourd'hui. Evelyn, c'est à toi.
Oui, Brina est une aide extrêmement précieuse aussi pour moi, et elle m'a beaucoup apporté. Alors, je vous remercie de cette invitation qui m'a été donnée l'année dernière lors d'une rencontre à Dra. Et j'ai été baptisée à l'âge de 20 ans et maintenant j'en ai 68, donc je vous révèle tous mes secrets. Donc, ça veut dire que ça fait pas mal d'années que je suis adventiste et pourtant, c'est la première fois que je viens ici, dans le Saint des Saints. Et j'ai le plaisir d'y retrouver des visages connus, certains que j'ai rencontrés à Tunis, mais aussi Gabriel, que j'ai connu en Côte d'Ivoire en 1975, donc ça fait déjà pas mal d'années. Donc merci à tous, et vous m'avez donné là une grande responsabilité, parce que c'est difficile de transmettre cette parole qui doit être celle du Seigneur, et parce que ce n'est pas seulement matière à réflexion, mais c'est aussi de nouvelles poussées en avant dans notre marche avec Dieu. Donc, j'ai donc voulu partager avec vous ce qui pourrait résumer ce qui m'a essentiellement fait comprendre le travail d'Adra dans le contexte où j'ai vécu. Donc, j'ai fait des expériences qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Mais laissez-moi d'abord, puisque nous sommes dans le cadre de l'Église, des nouvelles de l'Église de Tunis. Parce que nous avons à Tunis une église qui fonctionne avec un pasteur. Bon, certains d'entre vous l'ont déjà vu. Nous avons environ une quarantaine de membres. Mais quand je suis arrivée en 2001, il n'y avait personne. Il n'y avait que moi comme membre. Et puis quelques jeunes Africains qui étaient là pour soit faire des études, soit pour essayer de devenir des footballeurs. Et donc mon prédécesseur, frère Reynolds Agathe, qui ensuite a été le président de ATMA, m'a présenté donc ces jeunes gens, et donc on se réunissait dans mon salon. Et puis la Banque africaine de développement, qui avait son siège à Abidjan, à cause des troubles en Côte d'Ivoire, est venue s'installer à Tunis. Et parmi le personnel de cette banque se trouvait un bon nombre d'adventistes. Donc ses frères et sœurs sont venus chez moi, mais leur nombre augmentant et les murs n'étant pas élastiques, nous avons dû trouver un endroit pour avoir notre culte du samedi matin. Et c'est une église catholique de la région de Tunis qui nous a ouvert ses portes. Et pendant 6 ans, nous nous sommes réunis chaque sabbat matin à l'église de la Goulette, grâce au bon vouloir d'un père blanc qui était le curé de la paroisse, un père belge qui a d'ailleurs dû se battre avec sa hiérarchie pour nous accepter, parce que l'évêque n'était pas très ouvert à ce genre d'échange interreligieux. Mais nous avons donc été pendant 6 ans dans ce local. Et puis ensuite, maintenant, nous louons une grande villa dans un quartier de Tunis où Jean-Claude Lalu, hein, le frère de nos amis qui sont ici, a bien aménagé le sous-sol, et nous avons une jolie chapelle au sous-sol, avec aussi au premier étage l'appartement pour notre pasteur. Parce que nous avons eu un pasteur pendant 5 ans, un pasteur libanais, donc arabophone, et maintenant nous avons la joie et le privilège d'avoir un pasteur tunisien, un jeune homme qui est devenu chrétien, et puis qui a rencontré les adventistes, qui a été séduit par notre message, et qui maintenant est notre jeune pasteur. Donc, évidemment, la grande majorité des membres sont des personnes d'Afrique subsaharienne. Il y a quelques Européens et quelques arabophones. Et les cultes se font en anglais et en français. Il y a toujours traduction dans un sens ou dans l'autre. Donc c'était une joie vraiment de voir ce groupe progresser, et si vous avez une petite place dans vos prières, pensez à eux, parce que la banque va repartir et donc le groupe va se retrouver assez restreint. Donc il y aura un défi pour notre jeune pasteur et les jeunes gens qui sont autour de lui, et en particulier il y a un jeune dentiste dont la maman est adventiste et le papa tunisien, qui est un bon élément dans l'église et qui a réussi à contacter quelques-uns de ses collègues dentistes, si bien qu'il y a un petit groupe de Tunisiens intellectuels qui grandit dans notre église là-bas. Donc priez pour eux. Donc je reviens maintenant à notre ADRA. ADRA est notre présence dans un monde séculier. Alors quelle est la mission d'ADRA ? C'est représenter Jésus par des actions d'amour totalement désintéressées, sans rien attendre en retour. Or, nous sommes tous embarqués dans ce monde avec pour mission d'y représenter notre Sauveur. Nous sommes donc, d'une manière ou d'une autre, tous ADRA, comme nous formons tous, pour mieux dire chacun même, l'Église. Nous avons donc lu dans Philippiens quelle était la mission de Jésus, comment Jésus a vécu. Et nous allons voir justement comment l'attitude de Jésus dans toute sa vie sur terre est une base pour nous, ADRA. D'abord, nous voyons que Jésus a laissé de côté sa toute-puissance. La toute-puissance, c'est le premier péché, c'est le péché originel. Parce que qu'est-ce que Ève là où Ève a succombé, c'est quand Satan lui a dit « Vous serez comme Dieu ». Et Ève, elle y a cru. Eh bien, Jésus, lui, a laissé sa divinité, cette toute-puissance, il ne l'a jamais utilisée pour lui-même. Dans le désert de la tentation, à chaque suggestion du malin, il a refusé. À la croix, il aurait pu échapper au supplice, mais il ne l'a pas fait. Chaque fois qu'il a manifesté des pouvoirs extra-humains, hein, guérison, résurrection, c'était pour le bien-être des personnes qu'il rencontrait. Et à chaque occasion, il a refusé les hommages terrestres. Et le texte que nous venons de lire, et d'autres textes aussi que nous lisons dans les Hébreux, nous dit qu'il a poussé l'humilité jusqu'à apprendre l'obéissance. Maintenant, quand Jésus voulait opérer un miracle, c'était évidemment par amour, et il savait ce dont l'autre avait besoin. Mais vous avez remarqué qu'est-ce qu'il demandait à celui qui était dans le besoin ? Veux-tu être guéri ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Ça veut dire que Jésus n'impose rien. Il veut entendre le souhait de l'autre. Ce qu'il fera va dépendre du vrai désir de l'autre, parce que Jésus a un profond respect de la liberté de sa créature. Nous sommes tous condamnés à cette liberté, je peux dire. C'est un philosophe qui a dit ça. Nous sommes tous condamnés à être libres. Et Jésus nous laisse libres, même libres de refuser sa main tendue, libres de refuser sa guérison. Nous avons vu aussi Jésus qui n'hésite pas à faire le travail lui-même, un travail que le domestique devrait faire normalement. Et cela, nous le voyons dans cette scène du lavement des pieds où il est écrit que Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples. Et donc c'est lui-même qui s'est mis à genoux, par terre, devant eux, pour leur laver les pieds. Et c'était un travail peu ragoûtant à cette époque, parce que maintenant nous avons des chaussures, des pieds propres quand nous allons au lavement des pieds. Mais à l'époque, vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être. Donc Jésus travaille lui-même de ses propres mains. Il l'a fait aussi puisqu'il était charpentier, il a appris le métier avec son père nourricier. Un autre point également, c'est que Jésus envoie ses disciples à sa place. À la fin de son ministère, il les délègue après les avoir formés. Il prend un énorme risque. Avant son ascension, il charge ses disciples de le représenter et ajoute même qu'ils feront des œuvres plus grandes que les siennes. Alors, quand nous voyons donc cette attitude de Jésus tout au long de cette vie terrestre, quelle doit être la nôtre en tant qu'Adra ? Parce qu'en comparant le comportement de Jésus au nôtre, la question que l'on peut se poser en tant qu'organisation chrétienne, faisons-nous une différence dans le monde de l'humanitaire ? J'irai même plus loin, parmi toutes les églises évangéliques, l'église chrétienne en général. Est-ce que les bénéficiaires de nos services voient une différence entre nous et les autres personnes qui sont engagées dans les Restos du Cœur, MSF, ACF, CARE, Terre des Hommes, etc., toutes ces organisations humanitaires et toutes les églises qui ont des actions aussi humanitaires? Comment rendre notre ministère, car il s'agit bien d'un ministère de chacun d'entre nous, christocentrique, sans être accusé de prosélytisme, de vouloir tendre des hameçons pour pouvoir gagner des âmes? Est-ce que nous avons cette attitude que Jésus avait? Et cette attitude de toute puissance, donc c'est cette première attitude dont j'ai parlé tout à l'heure, cette volonté de toute puissance, elle est sous-jacente à tout ce que nous sommes et faisons. Je m'en suis rendu compte très récemment, grâce à un livre d'un auteur que certains d'entre vous connaissent certainement. Elle s'appelle Simone Paco, elle a écrit des livres qui s'appellent « L'évangélisation des profondeurs ». Et un des volumes s'appelle « Reviens à la vie ». Et elle dit ceci, que l'évangile doit être assez puissant pour nous pénétrer jusque dans notre inconscient et nous permettre d'être transformés jusqu'au plus profond de nous-mêmes et de vivre comme Jésus. Et l'auteur insiste sur cette toute-puissance qui s'infiltre dans tout ce que nous sommes, nous les êtres déchus, et en particulier dans notre relation avec l'autre. Cette toute-puissance, donc, qui est le péché originel. Et j'ai découvert, pour moi personnellement, que l'aide que je voulais apporter était une forme de toute-puissance. En fait, je voulais m'introduire, m'immiscer dans la vie des gens pour les changer, les aider malgré eux. Mais ce n'est pas moi qui vais les changer. Ce n'est pas à moi de m'introduire dans leur vie et gérer leur vie. C'est l'œuvre de l'Esprit. Pour chacun d'entre nous, donc cet autre sur lequel inconsciemment j'exerce cette toute-puissance, c'est qui ? Notre conjoint, nos enfants, nos parents vieillissants, nos frères et sœurs, nos employés, nos amis, et ces personnes en grande précarité que nous servons dans Adra. Et Adra est un milieu idéal où notre toute-puissance risque de se cacher derrière le masque du caritatif. Parce que nous venons avec nos grosses voitures tout-terrain, notre argent, notre technique, notre savoir d'occidental, Et c'est un poids écrasant pour cet homme et cette femme d'un pays qu'on dit en voie de développement ou du quart monde. Mais de quel développement s'agit-il ? Ça, je me suis posé la question. Est-ce que le nomade du sud maghrébin est moins développé que moi, l'occidental du XXIe siècle ? Est-ce que Abraham et Moïse, qui vivaient de la même manière que ces soi-disant sous-développés, étaient des sous-développés ? Celui ou celle d'Afrique centrale qui revient des champs le soir, sale et fatigué, chargé, il est fait de chair et de sang, et il, elle, elle est riche d'une expérience, d'une culture, d'un savoir que je ne connais pas. Et Jésus, nous l'avons vu, il écoutait l'autre, il lui demandait, est-ce que tu veux ceci, est-ce que tu veux cela ? Alors est-ce que nous savons écouter l'autre ? Est-ce que nous savons demander à l'autre, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et savoir l'écouter dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il a à partager, dans ce qu'il a à nous faire comprendre, dans ce qu'il a à dire, dans ce qu'il a à partager, dans ce qu'il a à nous faire comprendre. Quand nous avons commencé à travailler dans le sud tunisien, quand nous avons écouté les souhaits des paysans, c'est une vache qu'ils souhaitaient. Et ce projet de vache laitière que nous avons monté s'est avéré très porteur et source de prospérité pour les bénéficiaires. Et ce projet nous a valu des problèmes, parce que justement nous avions été à la source et demandé aux personnes ce qu'elles voulaient vraiment. Or, le système de l'époque, j'espère qu'il va changer maintenant, mais le système de l'époque c'était le haut qui décidait pour le bas. C'était le gouverneur qui décidait de ce que le paysan devait recevoir. Et donc cela nous a valu pas mal de problèmes et de l'attente pour pouvoir effectivement implémenter notre projet. Et une chose m'a frappée quand j'ai lu en 2005, quand le tsunami a ravagé les côtes des îles de l'océan Indien, vous savez ce qu'ont demandé des survivants dans la plus grande détresse et qui avaient tout perdu, ce qu'ils ont demandé aux représentants des ONG qui étaient là pour les secourir. Bon, on se serait attendu à une demande pressante de nourriture, de vêtements, d'abris. Non, ils ont demandé une église. Là, au milieu des ruines et de rien, ils ont demandé une église. Un lieu de culte correspondait à leurs besoins profonds dans cette période d'intense détresse pour pouvoir se retrouver ensemble, eux les survivants, et implorer le secours de Dieu. Ce que Jésus aussi a fait, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'il a eu une attitude de dépendance. Quand il était au puits de Jacob, quand il a contacté la Samaritaine, il était fatigué, il avait soif. Il n'avait pas de quoi puiser de l'eau. Il était vraiment là dans toute son humanité. Il lui a demandé alors un service. Il s'est placé dans une attitude de dépendance. Et son besoin de l'aide de cette femme lui a permis d'entrer en contact profond avec elle. Alors, nous, est-ce que nous avons cette attitude de dépendance par rapport à ceux que nous disons vouloir servir ? Nous ne pouvons pas être des donneurs de leçons à ceux qui plus ou moins consciemment nous considérons de haut, à ceux qui apparemment connaissent moins que nous. En réalité, ils connaissent autre chose et autrement. Et j'ai constaté que l'esprit colonial reste très présent. J'en ai eu bien souvent l'occasion de le constater. Par exemple, quand nous étions au Burundi, mon mari avait construit un bateau à voile. Il était descendant de Vikings, et donc pour lui, les bateaux, la mer, c'était quelque chose de très important. Et donc, ce bateau, il était destiné à faire connaître le lac Tanganyika aux Burundais, parce que le lac ne faisait pas partie traditionnellement de leur culture. Donc, il avait construit un trois-mâts vraiment très, 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 très grand. Et chaque dimanche, nos amis Burundais faisaient une queue pour pouvoir monter sur le bateau et faire une exploration de la région autour de Bujumbura, la région du lac. Eh bien, comme cela se passait au cercle nautique, les vieux colons qui étaient là depuis des années voyaient d'un très mauvais œil tous ces messieurs et dames burundais qui étaient sur leur territoire. Donc ça, c'était un des signes que l'on rencontre parfois encore, malheureusement, dans nos les pays où nous travaillons. Et donc, pour cette question de dépendance, j'ai vécu en Tunisie une expérience qui peut en servir d'illustration. Quand je suis arrivée en été 2001, je me suis retrouvée dans un bureau où j'étais toute seule, avec le titre ronflant de directrice. Directrice de quoi ? Bon, je devais tout faire et j'étais donc la directrice. Reynolds Agathe, que je remplaçais, m'avait bien sûr orientée, présentée à certaines personnes utiles, mais c'était la première fois que je me trouvais en Afrique du Nord, en pays musulman. J'étais seule et sans l'appui d'une église, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'y avait pas d'église à ce moment-là. C'est alors qu'en 2003, après quelques tentatives de projets sans grand impact, le Seigneur a mis sur ma route une jeune femme médecin. Elle s'appelle Hajar. C'est le nom arabe de Agar, l'épouse de second ordre, comme on dit, d'Abraham. Et Hajar, donc, comme médecin, eh bien, elle ne joue pas la grande dame comme ses collègues tunisiennes. Comme musulmane, elle avait un esprit, et elle a toujours un esprit très ouvert. Elle est parfaitement bilingue, elle m'a dit « je pense en français », et très cultivée, et donc nous avons pu échanger sur tous les domaines. En plus, elle a parfaitement fait sien les principes d'ADRA. Et c'est grâce à elle que pendant 8 ans, nous avons pu travailler en tenant compte de tous les paramètres de la société dans laquelle nous nous trouvions. Nous formions une équipe soudée. Elle s'est chargée du terrain, du contact avec les bénéficiaires, des relations avec les autorités locales, des tractations avec les fournisseurs. J'ai pris en charge ce qui était avec les autorités locales, les tractations avec les fournisseurs. J'ai pris en charge ce qui était l'administration paperasse et comptable. J'ai beaucoup reçu à son contact et j'espère avoir intégré les leçons qu'elle m'a apprises. J'étais vraiment dépendante d'elle. ADRA a dépendu pendant 8 ans du travail de cette jeune femme tunisienne. Notre engagement personnel maintenant, est-ce que nous sommes prêts à nous salir les mains ? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à un niveau très bas ? Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il n'a pas hésité à se salir, à se mettre à genoux par terre devant eux. Il a fait le travail du domestique. Il a vraiment été un des leurs. Et il a fait lui-même ce qu'on demande trop souvent aux autres de faire. Combien de fois j'ai vu ou entendu parler des maîtres et des maîtresses de maison se comporter avec leurs domestiques comme ils ne l'auraient jamais fait dans leur propre pays, où ils n'auraient même pas eu le moyen de payer, comme on dit, un boy ou une bonne, leur demandant parfois des actions que leur culture n'admettait pas du tout. J'en ai eu des exemples. Inconsciemment, il nous arrive de considérer ceux que nous sommes venus aider comme des êtres inférieurs, juger leur comportement, leurs coutumes. Ils sont sales, ils sont incapables de faire les choses correctement, ils ne respectent pas les femmes, ils mangent avec leurs mains. Enfin, vous connaissez tout ça, on en a entendu beaucoup. J'ai souvent perçu du mépris de la part des Occidentaux envers les Autochtones. Et pourtant, l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit « Je me suis fait tout à tous ». Et c'est grâce à son empathie, tout en gardant son identité propre, qu'il a fait avancer à pas de géant l'œuvre de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de changer notre identité, mais d'être là avec tous ceux pour lesquels nous travaillons, avec lesquels nous travaillons. Je ne dirais pas pour, mais avec. Quand Paul dit de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, alors pour ceux qui ont des contacts dans les antennes d'ADRA ou le Secours Adventiste, qu'est-ce qu'on peut apprendre du clochard qui pue le vin, excusez-moi de le dire, de la vieille femme tout édentée ? Comment peut-on les considérer comme étant au-dessus de nous-mêmes ? Pourtant, chaque personne a des potentialités, des qualités que l'autre n'a pas. Est-ce que moi, je serais capable d'affronter la rue ? J'ai lu un livre qui s'appelle « J'habite en bas de votre meuble ». C'est une jeune femme qui, par des circonstances dramatiques, s'est trouvée à la rue. Et elle raconte son calvaire dans la rue et comment elle a eu beaucoup de peine à s'en sortir et comment elle s'en est sortie grâce à l'amitié de certains. Alors moi, je serais incapable de vivre dans la rue. Je ne peux pas dire d'y retourner, j'y suis jamais allée. Donc de vivre dans la rue, de vivre avec si peu de moyens. Je pense à ces femmes d'Afrique subsaharienne qui reviennent des champs avec une dure journée de labeur sous le soleil. Elles ont une grosse bassine pleine sur la tête. Hein ? Ce sont des ignames ou de l'eau ou de la récolte du jour. Elles ont un enfant au dos. Elles ont un enfant à la main. Et souvent, elles en ont un troisième qu'elles portent dans leur ventre. Et quelles leçons d'endurance et de courage elle nous donne. Et de savoir-faire aussi. Je serais incapable de pratiquer tout ce qu'elles pratiquent, de vivre leur vie. Est-ce que j'aurais la force de cultiver cette terre ingrate sous le soleil de plomb? Est-ce que je saurais vivre avec ce minimum, comme j'ai vu de femmes qui vivaient sous un toit de feuilles de palmier? J'ai vu des gens dormir sur des cartons. J'ai vu des gens qui se plaignaient d'avoir les rats qui leur rongeaient les pieds pendant la nuit. Donc est-ce que nous serions capables, est-ce que je serais capable de vivre cela? Et au Burundi, quand les rebelles ont saboté les pylônes électriques et menacé d'empoisonner le lot, j'ai vraiment pris conscience de notre vulnérabilité de nous, occidentaux, et des leçons de survie que mes amis burundais des collines pouvaient m'apprendre. Eux, depuis des siècles, ils vivaient dans les montagnes, ils savaient comment vivre sans eau courante et sans électricité. Et comment apprendre d'eux, si ce n'est de vivre avec eux, de partager leur vie, d'aller manger avec eux dans le même plat, vous savez ce plat commun là où on mange avec les mains, et de dormir aussi dans la même maison qu'eux. Et vous savez, c'est un enrichissement et pour nous et pour eux. Ils sont si heureux de nous voir partager leur vie. L'autre est mon égal devant Dieu. Et il m'est toujours supérieur d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas un savoir-faire de cultivateur, de tailleur, de tisserand. Je n'ai pas l'expérience de la vie de la rue, je n'ai pas l'expérience de l'adversité. À partir du moment où je comprends que je peux apprendre de l'autre, alors je le considère comme supérieur. Et puis, en dernier point, ce que Jésus aussi a fait, c'est qu'il a su déléguer. Par son incarnation, il s'était volontairement limité. Sa divinité lui aurait permis d'accomplir des exploits extraordinaires, comme de faire crier les pierres à notre place. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de nous investir de sa mission, dans notre propre intérêt, pour notre développement personnel, pour que nous puissions grandir. Nous sommes donc les délégués de Jésus qui a ainsi pris des risques énormes. Est-ce que nous comprenons bien le message pour savoir le transmettre comme il faut? Donc, mauvaise ou fausse transmission du message. Est-ce que le message, nous l'avons transmis à temps? Donc, il y a un retard d'exécution. Est-ce que le travail est bien fait? Trop souvent, c'est du travail bâclé. Et puis, les disciples se sont disputés, mais nous, est-ce que nous avons une entente parfaite entre nous? Donc, ces disputes entre membres, tout ça sont des obstacles à notre avancée dans l'œuvre de Dieu, et ce sont les risques énormes que Jésus a pris en nous déléguant. Et pourtant, Jésus nous a donné cette responsabilité de continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Et dans cette question de déléguer, nous savons combien il est difficile de lâcher les rênes, de laisser le plus jeune les tenir, parce que c'est lui qui continuera. Bien sûr, il fera des erreurs, mais moi j'en ai fait des erreurs et je continue d'en faire. Donc, laissons au plus jeune, laissons à celui de ces pays qu'on dit en voie de développement, prendre les rênes, continuer notre travail. Au Burundi, je n'aurais jamais pu faire sans Liliane, qui était infirmière, qui pendant 10 ans a tenu entre ses mains notre projet de soins des malades du sida et de prévention du sida. Et toute l'équipe était burundaise et rwandaise. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et puis aussi, il y avait Guilin, qui était un Congolais et qui était un technicien en bâtiment. Sans lui, c'était impossible de travailler. Les 3 ans où je suis restée après le décès de mon mari, bien, ces deux-là ont été extraordinaires et on a pu faire un travail que je n'aurais pas pu faire, c'est évident. Donc, il s'agissait de déléguer pour que le travail se fasse. Et nous connaissons donc tous ces luttes en nous-mêmes. Nous sommes partagés entre le désir de nous mettre en lutte en nous-mêmes. Nous sommes partagés entre le désir de nous mettre en avant par de belles actions et le fait qu'on a une expérience, on veut continuer, on veut se donner l'impression qu'on est encore valable. Mais on a le devoir de laisser agir l'autre parce qu'il fait mieux dans un domaine particulier. Parce qu'il doit grandir, parce qu'il doit apprendre, parce qu'il doit prendre la relève. Ainsi donc, si nous suivons l'attitude de Jésus, qui suppose de notre part une remise en question et qui vaut pour toutes nos relations. Si nous mettons donc de côté notre suffisance, notre arrogance d'occidental, de nanti, si nous savons vraiment être à l'écoute de l'autre, de ses besoins réels et profonds, si nous avons l'humilité de reconnaître notre dépendance et que nous savons l'apprécier comme un cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau d'être dépendant, je m'en suis vraiment rendu compte, parce que sans Heger, sans Liliane, sans Guilin, j'aurais pas pu faire ce travail qu'on m'avait confié de faire. Et puis, nous qui sommes là, le vêtement que nous portons, la nourriture que nous mangeons, c'est le fruit du travail des autres, sans lesquels je ne peux pas vivre. Et si nous nous engageons corps et âme, sans rien attendre en retour, sans avoir peur de nous salir les mains, parce que des merci, on n'en a pas souvent, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Ce qui compte, c'est qu'on puisse voir que l'autre va mieux. Si nous savons déléguer, passer avec joie le flambeau au plus capable, au plus jeune, alors peut-être nous ferons une différence. Et je voudrais terminer avec ce poème chinois que j'ai eu affiché dans mon bureau pendant longtemps. Allez vers les gens, vivez parmi eux, apprenez d'eux, aimez-les. Commencez à partir de ce que vous connaissez, construisez sur ce qu'ils ont, mais des meilleurs leaders, quand leur tâche est terminée, les gens diront « Nous l'avons accompli nous-mêmes ». Amen.